Contrairement à plusieurs d'entre vous, je ne me suis pas lancé dans la vie avec le but d'améliorer le sort de mes semblables. C'est la connaissance qui m'a attiré, non l'action. Et c'était la connaissance, sous son aspect moderne, la science. Je ne voyais rien de plus beau que de soulever un coin du voile qui nous cache les secrets de la nature, de comprendre mieux quelques-uns de ses ressorts cachés. Sans doute acceptais-je inconsciemment le postulat que tout accroissement de connaissances impliquer un accroissement de pouvoir et que de toute nouvelle maîtrise de la nature devait, tôt ou tard, résulter une amélioration de la condition de l'homme, à la fois de sa condition matérielle et de sa condition morale. Pour moi, comme pour tous les penseurs dont les racines plongent dans le siècle dernier, le siècle de la fondation scientifique, l'ignorance était le premier de nos maux, sinon le seul. Celui qui retient l'humanité dans son essor vers la perfection. Nous admettions sans discussion la perfectibilité indéfinie du genre humain. Le progrès pouvait être plus ou moins rapide, il n'en était pas moins assuré. Du moment que nous en étions arrivés où nous en sommes, c'est que nous pouvions aller plus loin. Et pour nous, connaître davantage, c'était automatiquement savoir davantage, devenir plus sage, plus juste, en un mot, devenir meilleur. Il y a un autre postulat que nous admettions aussi implicitement. C'est qu'il nous est possible de connaître l'univers tel qu'il est réellement, de saisir objectivement ses lois. Cela paraissait tellement évident que la question ne se posait pas. L'univers et moi, nous existons tous deux, l'un ayant pour fonction de connaître l'autre. Sans doute je fais partie de l'univers, mais dans le processus de connaissance, je m'en détache, je le considère objectivement. J'admets que ce que j'appelle les lois de la nature existent indépendamment de moi, de mon esprit, qu'elles existent en soi et qu'elles seront les mêmes pour tout autre esprit capable de les percevoir. Animé par cet idéal de connaissance pure, je me mis au travail. Je choisis les sciences physiques, et comme domaine particulier celui de l'atome. La radioactivité où Becquerel et les Curie avaient tracé une voie royale. C'était l'époque où la radioactivité spontanée commençait à céder la place à la radioactivité artificielle, où le rêve des alchimistes se changeait en réalité. Je travaillais avec les grands physiciens qui ont découvert la fission de l'uranium et j'assistais à la naissance de la bombe atomique. Année de labeur ardu, opiniâtre, exclusive. C'est à cette époque que je conçus l'idée qui devait me conduire à ma première découverte. Celle qui nous permet aujourd'hui d'obtenir directement de l'énergie électrique à partir de l'énergie intra-atomique, de l'énergie nucléaire. Comme vous le savez, Cette découverte entraîna un bouleversement profond des conditions économiques du monde entier, car elle signifiait l'énergie à bas prix, à la portée de tous. Si cette découverte eut un si grand retentissement, c'est qu'elle libérait l'homme de la malédiction du travail, de l'obligation de gagner son pain à la sueur de son front. J'ai réalisé donc là le rêve de mon adolescence, une grande découverte. Et je m'aperçus en même temps de son importance pour l'humanité, à qui j'avais apporté, sans le chercher spécialement, un bienfait considérable. J'aurais donc eu lieu d'être pleinement satisfait. Si je l'ai été, c'est peu de temps. Car peu après, je puis vous le dire, puisque nous sommes à deux doigts de la mort et qu'elle ensevelira probablement mon secret. Peu après, dis-je, je découvris le moyen de libérer l'énergie atomique, non seulement de l'uranium, du thorium ou de quelques autres métaux rares, mais de la plupart des métaux communs, le cuivre et l'aluminium entre autres. Mais alors, se posa à moi un problème formidable, sous l'angoisse duquel je défaillis. Devais-je rendre publique ma découverte? À ce jour, personne, en dehors de moi, ne connaît ce secret. Vous connaissez tous l'histoire de la bombe atomique. Vous savez que celle-ci a fait place à un engin infiniment plus destructeur encore, la bombe à hydrogène. Vous savez aussi, comme moi, que l'humanité chancelle sous le poids des découvertes qui placent entre ses mains une puissance destructrice inégalé. Mais si je révélais maintenant ma nouvelle découverte, si je dévoilais mon secret, je placerais une puissance diabolique entre les mains du premier venu, et cela sans contrôle, sans restriction. L'uranium, le thorium ont été aisément monopolisés par les gouvernements en raison de leur rareté relative d'abord et surtout de la difficulté de leur mise en œuvre dans les piles atomiques. Mais vous imaginez ce qui arriverait si tout criminel, tout détraqué, tout fanatique pouvait, dans un petit laboratoire de fortune, confectionner un engin capable de faire sauter Paris, Londres ou New York. Ne serait-ce pas le coup de grâce asséné à l'humanité? Moi aussi j'ai chancelé sous le poids de ma découverte. J'ai hésité longtemps. Et je n'ai pu jusqu'à présent parvenir à aucune décision qui satisfasse à la fois ma raison et mon cœur. Ainsi donc, le premier postulat avec lequel je suis parti, jeune savant, à la recherche des secrets de la nature, s'est effrité. Si tout accroissement de connaissances confère une puissance accrue, il ne s'ensuit pas du tout que l'humanité s'en trouve automatiquement améliorée. Le progrès scientifique n'implique pas le progrès moral. À changer la nature humaine, la connaissance scientifique et intellectuelle est impuissante. Et pourtant, cela devient urgent. Si les convoitises et les passions humaines restent ce qu'elles sont aujourd'hui, à peu de choses près ce qu'elles étaient à l'âge de Pierre, l'humanité est vouée à disparaître. Nous sommes arrivés à un point où elle dispose d'une puissance telle qu'à moins d'un changement moral radical et rapide, elle sera l'instrument de sa propre destruction. Que reste-t-il du deuxième postulat de mon adolescence? Puis-je au moins avoir la joie de la connaissance pure, être certain que j'ai compris quelque chose au rouage caché de la nature? Puis-je espérer jouir de la compréhension des vraies lois qui la gouvernent? Et là, je crains bien que là aussi mon idéal ait fait faillite. Nous, hommes de science, avons depuis longtemps abandonné l'idée qu'une théorie devait être vraie ou fausse. Nous disons qu'elle est commode et qu'elle s'adapte aux faits et les explique. Quant à savoir si elle est vraie, c'est-à-dire si elle est conforme à la réalité, c'est une autre affaire. Et peut-être la question n'a-t-elle pas de sens. Il existe sans doute, il existe sûrement, d'autres théories qui expliquent les mêmes faits aussi bien et qui par conséquent sont aussi valables que la première. Toutes ces théories, que sont-elles au fond? Des symboles? Pas autre chose. Elles sont utiles sans doute, car elles nous permettent de prévoir. Elles nous disent comment les choses se passent, mais non leur raison d'être, leur pourquoi. Elles ne nous introduisent pas dans la réalité. On a constamment l'impression de tourner autour de la réalité et de la vérité, de l'aborder sous différents angles, sous différents points de vue, sans jamais réussir à la découvrir, sans jamais qu'on puisse la saisir, ni qu'elle jaillisse et se révèle. Et puis, d'un autre côté, dans toutes les mesures que nous faisons, et que nous pensions nous révéler quelque chose de l'univers extérieur, nous intervenons nous-mêmes. Par le fait de notre mesure, nous dérangeons, si peu que ce soit, les phénomènes extérieurs et l'aspect du monde sans trop modifier. Aussi, la connaissance que nous donnent ces mesures n'est-elle pas certaine? Ce que nous pouvons en déduire, c'est un état probable du monde, pas une certitude. Pour les phénomènes à notre échelle, l'incertitude est négligeable, mais il n'en est pas de même pour l'infiniment petit, le monde de l'atome. Et il s'agit ici d'une impuissance essentielle, d'un obstacle que nous ne pouvons jamais espérer vaincre. Il est dû à la nature des choses, non à l'imperfection de nos moyens d'investigation. Si bien que nous ne réussirons jamais à rejeter les verres de couleur à travers lesquels nous observons l'univers. Toutes mes mesures, toutes mes théories me contiennent, moi, l'esprit humain, tout autant qu'elles contiennent l'univers. elles sont subjectives, tout autant qu'objectives. Et peut-être, dans le fond, n'ont-elles d'existence que dans mon esprit. Ayant découvert sur la grève de l'infini une empreinte, j'ai entrepris de reconstituer l'être qui a laissé sur le sable cette trace. J'ai enfin réussi. Et il se trouve que cet être, c'est moi-même. Voilà où j'en suis. Où nous en sommes. Et je ne vois pas d'issue. Après tout, que je n'ai sur le monde que des probabilités, pas de certitudes, laisse peut-être une lueur d'espoir. C'est que le sort de l'humanité ne soit pas définitivement scellé.